On est à la table des gourmands en compagnie de Philippe Simon. On parle de Rabelais, entre autres. On parle d'écriture, de gourmandise, de lecture. On va revenir à ce François Rabelais, hein, parce que il était quand même évident que ce grand homme soit invité à cette table. Vous avez évoqué tout à l'heure ce repas que vous avez pu déguster lorsque vous étiez à Lyon une fois. La table chez Rabelais, on le sait, était très importante. Il y avait quelque chose de particulier. J'imagine qu'il ne mangeait pas toujours comme ça.
Ah non, s'il avait décidé de manger de la même manière que ses personnages, je pense qu'il, franchement, il n'aurait pas fait long feu. En fait, la table chez Rabelais, le manger, alors, c'est effectivement l'occasion de se nourrir, c'est l'occasion de boire, c'est l'occasion pour Rabelais de faire tout ce qu'il connaît en termes de feu d'artifice littéraire, mais c'est surtout aussi, et là on se rattache à la grande tradition du banquet, comme elle avait été inaugurée par Plutarque, par exemple, c'est un endroit où l'on parle. C'est-à-dire, manger ensemble, c'est quelquefois souvent un alibi pour échanger, pour faire des blagues, mais aussi pour parler entre vous et moi, pour échanger des idées. Donc c'est ça qui est très important chez Rabelais, plutôt que la tradition de la table, c'est la tradition du banquet. Et durant le banquet, on parle.
Parce que c'était, on peut le dire, c'était un observateur de la société aussi. C'est ça
oui.
qui était important chez lui.
Ah oui, ah oui.
Et c'est comme ça que naissaient ses personnages. Il dessinait ses personnages. Il en faisait des caricatures parce que c'est quand même un grand satiriste.
Oui.
Hein.
Oui, oui.
Mais c'était ça. Et puis la table, ça permettait de partager tout ça.
Exactement.
Aussi d'être un observateur de
Exactement.
Tout ce qui pouvait se passer
Exactement.
Autour de la table.
Exactement. C'est un observateur de la société de son époque, mais également toute proportion gardée de sa situation géopolitique, par exemple. C'est quelqu'un qui a été secrétaire diplomatique de Jean Dubellay, qui était ambassadeur du roi de France. C'est quelqu'un qui, bien sûr, était très attentif au développement religieux de son époque. Hein. Il est officiellement catholique, mais il se plaçait plutôt dans une troisième voie qu'on appelait à l'époque l'évangélisme, qui n'a rien à voir avec l'évangélisme d'aujourd'hui, qui est plutôt une sorte de redécouverte des textes qui étaient initiés par Erasme quelques décennies auparavant. Donc il se trouvait un petit peu à mi-chemin des catholiques et des réformés. Il observait ça de manière très, 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 très acerbe. Donc oui, c'est effectivement un grand observateur aussi des coutumes de son époque. Ce que vous trouvez chez Rabelais, ce n'est pas seulement du rire, c'est également une description de ce que pouvait être le monde à l'époque.
Il écrit dans Gargantua en 1534, « Le rire est le propre de l'homme ». Certains attribuent cette phrase à François Rabelais. Finalement, il faut aller la chercher bien plus loin chez les philosophes grecs. Mais c'est que chez Aristote.
Chez Aristote, oui. Ouais. Ouais.
Mais c'est quand même une phrase qui lui collait particulièrement à la peau. Il l'a réellement écrite et pour lui, ça avait un sens profond.
Ça avait un sens profond et je pense que le sens qui en même temps peut paraître le plus anecdotique, mais qui est peut-être le plus profond, c'est que, et là il se réfère à Hippocrate, qu'il a traduit à l'époque, on n'a malheureusement jamais retrouvé cette traduction d'Hippocrate par Rabelais, mais Hippocrate disait déjà que le rire était un remède, un médicament. Mmh. Le rire a une vocation thérapeutique, prophylactique. Et c'est quelque chose que Rabelais exprime très bien dans une des pièces liminaires du Carlivre, où il se met en scène en tant que médicus, c'est-à-dire en tant que médecin, ce qu'il était effectivement, et en même temps en tant qu'écrivain. Et lui dit très concrètement que le rire est une manière de soigner les gens. Donc c'est dire effectivement l'importance que pour lui pouvait prendre le rire.
Parce que par la suite, en plus, il devient médecin. Donc il y a aussi quelque chose aussi qui naît dans l'esprit de Rabelais, qui est très important chez lui.
Tout à fait, tout à fait. C'est une sorte d'apôtre de la bonne vie, de la vie agréable. Donc effectivement, le rire est un point central de sa philosophie. Pour lui, faire rire, c'est aider les gens à vivre bien.
Est-ce que Rabelais a été un cancre ?
Non, ça je ne pense pas. Non, ça je ne pense pas. On a d'ailleurs une preuve assez ancienne de son goût pour les lettres. C'est d'ailleurs la première trace écrite de Rabelais. C'est une lettre qu'il écrit en 1521, alors qu'il est moine, je ne vais essayer de ne pas vous dire de bêtises, je crois, au couvent des franciscains de Fontenay-le-Comte, sauf erreur. Il envoie une lettre à Guillaume Budet. Guillaume Budet, c'est un des grands humanistes du début du XVIe siècle, qui a entre autres écrit le De Asse, qui est un traité des monnaies antiques, mais qui est également un mode d'emploi de pensée humaniste. Bref, il écrit à Guillaume Budet pour lui dire toute son admiration et son désir d'apprendre les lettres anciennes. les langues anciennes. Alors, il en connaissait déjà une, c'était le latin, vu qu'il écrit Abudé en latin. Mais il dit à Abudé, j'aimerais beaucoup apprendre le grec. Donc voilà, à cette époque-là, il a peut-être 25 ans. Donc, pour l'époque, pour quelqu'un qui ne vient pas de la noblesse, c'est déjà le témoignage de quelqu'un qui n'est pas un cancre, qui veut apprendre, qui a le désir d'apprendre.
Philippe Simon, qu'est-ce que ça vous a appris à vous de lire Rabelais ?
Ça, c'est une bonne question. Alors, sans passer par la psychanalyse, qu'est-ce que ça m'a amené ? Alors, ça m'a. Je crois que c'est un des grands avantages, entre guillemets, de Rabelais, c'est que c'est un texte qui est beaucoup plus. Beaucoup plus nourri de références que ce qu'on a l'habitude de bien vouloir dire. Et quand vous entamez un Rabelais et que vous souhaitez l'analyser, ça vous ouvre des portes sur tout un savoir antique, tout un savoir médiéval et également le savoir contemporain de la Renaissance. Et ça, dans des domaines extrêmement variés qui peuvent aller de la théologie à la poésie, en passant par la gastronomie, en passant par l'art de la navigation, en passant par l'art de la chasse. Enfin, il y a une masse de références qui sont absolument énormes. Et ça, ça vous force à vous créer un panorama intellectuel quelque part qui est vraiment très séduisant, vraiment très séduisant.
On déguste Rabelais un petit peu aujourd'hui dans cette émission La Table des Gourmands. On déguste aussi d'autres plats avec nos spécialistes de la cuisine, Jean-Marc Soldati ou Claude Frotté, qui chaque semaine nous apportent une recette. Alors, on va partager cette recette, puis on revient tout à l'heure pour partager cette table jusqu'à 19h.